Bonjour. Ce matin, j'aimerais adresser une chaleureuse et joyeuse bienvenue à chacun et chacune. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». C'est un cantique qu'on n'a pas chanté depuis longtemps, mais c'est vrai que je suis dans la joie quand je viens dans la présence de Jésus avec vous. Parce que Jésus est là, il est présent au milieu de nous, et je crois que notre présence lui fait plaisir. Et moi, de penser que je peux lui faire plaisir, ça me fait plaisir. Mais je peux vous dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Jusque dans ma trentaine, j'allais à l'église tous les dimanches parce que je savais que c'était juste, parce qu'il le fallait. Mais ça me cassait profondément les pieds. Jusqu'en février 1976, ça fait longtemps, hein, j'étais alitée et je me suis mise à lire le livre « Le contrebandier » de Frère André. Cet homme qui a fondé la mission Portes ouvertes, il racontait dans ce livre comment il avait passé des Bibles en contrebande et il donnait des témoignages de gens persécutés pour leur foi. Et moi, en lisant ça, je me disais, mais oh, des gens qui sont prêts à perdre leur liberté et même leur vie par amour pour Dieu. Alors c'est ça dont j'ai envie. Et je peux vous dire que Dieu a répondu à mon désir. Ce matin, nous allons parler de l'Église persécutée. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a plus de chrétiens persécutés que dans les 20 siècles précédents. Alors, que leurs ailes, leur foi et notre amour pour Dieu soient des stimulants pour que nous désirions aimer toujours plus Dieu et que nous devenions des passionnés de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci de nous avoir donné Jésus. Merci Jésus d'être présent au milieu de nous. Ce matin, visite chacun, chacune d'entre nous et répands comme tout à nouveau l'amour de Dieu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Que tout ce culte, Seigneur, puisse être à ta gloire et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Alors maintenant, on va se laisser entraîner par le groupe de louanges.
Bonjour à chacun. C'est vrai que cette semaine, comme un peu, je pense chacun, on a tous des semaines pas faciles à vivre, que ce soit des tensions, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, etc. C'est vrai qu'on vient le dimanche matin, c'est dur. Moi, je vous avoue aussi, un petit témoignage, que cette semaine, ce n'a pas été la semaine la plus facile. On a un peu de tension à la maison, avec le petit, avec Rebecca, ou même au travail, il y a pas mal de choses qui se passent. Et c'est vrai que je devais préparer la louange. Ben, c'est hyper chaud, parce que bon, une chose, on a vraiment pas envie de le faire, quoi. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et puis je me suis dit, ben, Seigneur, voilà, il me reste 3 jours à préparer la longe et puis ben, dis-moi qu'il faut que je fasse. Et j'ai pris des chants qui me parlent beaucoup par rapport à ce qui a été fait ben, cette semaine ou les autres semaines, qui parlent de bénir le Seigneur malgré nos circonstances, malgré nos peines, nos fardeaux qu'on porte. Et ça va être, tous ces chants vont être comme ça, sur la reconnaissance quand même d'avoir un Dieu qui est fidèle, toujours présent malgré nos faiblesses. Et je vous invite pas forcément à vous lever ou à... Bah, faites ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, prenez ces chants soit pour prière ou des... ouais, simplement reconnaissance. Et j'avais un verset qui m'a trotté comme toute la semaine. C'est « Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistantes. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche. » J'avais ce verset qui m'a trotté dans la tête. J'espère que pour vous, ça peut peut-être toucher aussi quelqu'un. Alors je vous invite à chanter « Béni soit ton nom ».
Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Mais mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, que sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom, sur la route semée de souffrances, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Mais mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Me voir. ta majesté. Je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me
Seigneur, d'être fidèle chaque instant. Merci pour ton amour qui est énorme. Merci, Papa. Merci parce que tu es mon berger, que rien je ne manquerai. Et je chanterai toute ma vie. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face.
Je ne manquerai, oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas, il me conduit au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, pour sa présence, tellement de joie. Trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai.
Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, pour sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta parole sur moi les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier.
Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps.
Nous allons avoir deux lectures avant la prédication de Roger. Et la première se trouve dans le chapitre 21 de l'Évangile de Matthieu, à partir du verset 3.
33, pardon.
Écoutez une autre parabole, c'est Jésus qui parle. Il y avait un homme, un maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux : Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Et maintenant, on va lire le chapitre 2 de Matthieu. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent :
Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent :
À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant :
Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit :
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète :
J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte.
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète.
On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus.
Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit
« Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. »
Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes.
Il sera appelé Nazaréen.
Je vais encore prier, Seigneur, à travers ces textes, avec l'aide de ton esprit, nous te prions de visiter nos cœurs, afin que nous puissions saisir la merveille de ta venue et aussi la réalité de nos frères et sœurs à travers le monde aujourd'hui. Nous demandons ce que tu nous parles par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. À l'approche de Noël, on peut avoir des sentiments partagés. On est d'accord que c'est une belle fête. C'est l'occasion de se retrouver souvent dans nos familles élargies. Mais de l'autre côté, on a l'impression que l'on s'est emparé de force de la naissance de Jésus pour créer un événement qui n'a rien à voir. Donc, il y a un contraste dans ce qu'on vit dans ce temps. Et ce contraste se retrouve aussi dans le récit qu'on vient d'entendre de la naissance de Jésus. Il y a d'un côté l'étoile, il y a la crèche de Bethléem. Je ne sais pas, je n'étais pas dans les grandes surfaces. Est-ce qu'il y a encore la crèche? Je ne sais pas. Les mages, leur cadeau, les bergers, les anges. Et on a tendance à oublier qu'il n'y avait pas de place à l'arrivée de cette famille, qu'il y avait le meurtre des innocents, les Yézidis et les chrétiens de Syrie et de l'Irak, que pourraient en dire très long à ce sujet. Et puis, il y a la famille de Jésus obligée à prendre la route de l'exil, comme tant de personnes pourraient en témoigner aujourd'hui. Donc, il y a ces deux réalités côte à côte. Il y a le rejet et l'accueil. Il y a le simple et l'extraordinaire, le sombre, le lumineux, la cruauté et la loyauté. Et pourquoi ce sujet maintenant? Parce que c'est quand même bientôt Noël. Alors, on n'a pas vécu comme c'est recommandé on n'a pas vécu le dimanche de l'Église persécutée le mois passé. Et ce week-end, si vous le savez ou non, c'est le souvenir annuel de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été mise en place en 1948. Et c'est donc l'occasion de se souvenir de nos frères et sœurs qui sont privés, en fait, de tout droit. Alors, pour revenir à notre passage en Matthieu 2, le récit de la naissance de Jésus, on voit que l'ordre établi est menacé. Parce que quand il y a un individu comme Hérode au pouvoir, c'était la question à surtout ne pas poser. Où est le roi qui va régner? Vous imaginez, vous présentez à la dynastie Kim en Corée du Nord et on cherche le nouveau président. On ne fera pas long feu non plus auprès d'un Assad, le président Putin. Il faut que je fasse attention, hein. Comment on le prononce? Ou même Trump. À Jérusalem, ça fait trois décennies et demie que Hérode tient les rênes du pouvoir. Et il n'est pas prêt à les lâcher. Maintenant, même s'il est malade, il est sans scrupules, soupçonneux au point qu'il avait fait tuer sa femme favorite, qui s'appelait Marianne, et deux de ses garçons, Alexandre et Aristobule, simplement sous suspicion qu'eux, ils allaient prendre sa place. Voilà donc les services de renseignement, religieux et autres, qui sont convoqués et activés. C'était le verset 4. Finalement, la méthode choisie sera la ruse. Allez là-bas, renseignez-vous avec précision concernant cet enfant. Puis, quand vous l'avez trouvé, reviendrez me voir afin que moi aussi je puisse aller l'adorer. Côté ciel, la question qui était posée il y a bien longtemps avant, qui enverrai-je, sous-entendu, pour reprendre la partie de l'univers sous occupation ennemie, ça avait pris une tournure surprenante. Si on peut juste imaginer un moment ce qui s'est passé avant l'envoi. Les dernières instructions sont passées en revue, une dernière fois. Alors, on m'introduit sur la planète de manière secrète, cachée. Je vis un accouchement risqué, sans support médical. Le roi du pays, paranoïaque et sanguinaire, va me haïr à mort. Ma famille d'adoption aura ennui sur ennui. Que souffrance et larmes. Il y aura la fuite pendant la nuit et on cherchera refuge dans un autre pays. Le gros de mon existence sera passé dans un lieu méprisé, Nazareth. Et puis, au quartier général, d'ajouter à « n'oubliez pas la suite, pas besoin de me le rappeler ». Homme de douleur, habitué à la souffrance, Jésus connaissait les textes le concernant. Il était averti d'avance ce qu'il attendait, et pourtant il est venu. On savait fort bien ce qui attendait l'envoyé du ciel, et aussi ce que attendrait tous celles et ceux qui le suivraient par la suite dans sa mission, à Noël ou à tout autre moment. Je lis juste quelques exemples. Au Nigeria, l'atmosphère a beaucoup changé à l'occasion des grands événements comme Pâques et Noël, surtout si nous comparons avec la situation des années précédentes. Au lieu de joie, de festivité, les fidèles appréhendent maintenant ce qui pourrait arriver. Et à l'évêque Joseph d'ajouter, personne ne sait ce que les prochaines minutes lui réservent. Sœur Halima en Égypte a écrit ceci, lorsque nous nous retrouvons comme chrétiens, il existe toujours un sentiment de menace. Il est vrai que notre école fonctionne à nouveau, mais nous ne savons pas pour combien de temps. Elle peut à nouveau être détruite à tout moment. Sri Lanka. Ces trois dernières années, on compte près de 400 agressions contre les chrétiens, dont des meurtres, et cela va crescendo, confie un prêtre de Colombo. Cette recrudescence de violence oblige les chrétiens à ne pas exposer leur foi. Certains d'entre eux avouent, par exemple, rester cloîtrés chez eux pendant les fêtes chrétiennes. Je ne sors pas trop avec les enfants pendant Noël. L'an dernier, à Noël, des jeunes bouddhistes nous ont jeté des pierres et insulté. Il vaut mieux rester dans son coin, ne pas être trop visible. Ce combat spirituel est réel. L'autre ne veut pas lâcher le pouvoir. Mais voilà qu'arrive un soutien insoupçonné. Revenons donc à Jérusalem. Vous vous souvenez, l'établissement religieux du pays semble être contrôlé par le pouvoir politique. Ils sont convoqués et ils donnent les renseignements nécessaires. Mais l'idée que le Messie annoncé pourrait être là à 10 kilomètres de chez eux ne leur fait ni chaud ni froid. 10 kilomètres et ils ne vont même pas aller voir. Que le Seigneur nous garde d'une telle indifférence. Mais voilà qu'arrive un soutien moral et pratique de manière tout à fait inattendue. Dans la situation où ils se trouvent, Marie et Joseph, si c'est à Bethléem ou par la suite, vont recevoir un puissant encouragement. Des gens sont venus de très loin pour être là avec eux. Semble-t-il aussi pour l'Église persécutée, les visites des gens du loin font énormément de bien, et toute solidarité d'ailleurs. Ces mages, ils arrivent de l'Orient. Ils avaient sans doute très peu de données. Il y a des siècles en arrière de ça, il y avait 10 tribus d'Israël qui étaient exilées là-bas. Est-ce qu'ils ont laissé quelques témoignages? Déjà, Balaam, qui était un des leurs, avait évoqué cette étoile qui devait apparaître. Et puis, il y avait cet administrateur hébreu qui s'appelait Daniel. Mais là aussi, c'était des siècles en arrière, qui avait dit, mais il y a un être mystérieux, fils de l'homme, fils de Dieu, qui viendra un jour. Et les voilà partis. Quelle foi! Quelle persévérance! Les vols à bon marché, ça n'existait pas encore à l'époque. Mais quelle foi de se mettre à genoux pour adorer un bébé. Franchement. C'est presque aussi fou que de demander à quelqu'un qui est en train de mourir sur une croix si on peut faire part de son royaume. Devant le bébé, ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils ont sorti leur cadeau, digne d'un roi, de quoi aider en tout cas pour survivre au voyage et à l'exil qui va suivre. C'est lui, le Messie. Pour eux, il n'y a pas de doute. Même si l'ensemble des gens choisissent de l'ignorer, de rester indifférent. Eux, ils ont compris, le sauveur du monde est donné. Ordre établi menacé, un soutien insoupçonné, et maintenant, dans cette opposition, il y a aussi consolation. La persécution des minorités dans notre monde aujourd'hui, on estime que le 80% de la persécution est orientée contre les chrétiens, mais cette persécution dévoile la vraie nature de l'adversaire qui pilote l'humanité éloignée de son Créateur. Hérode en est un bon reflet. Le gant de velours pour tromper au départ, mais le masque tombe lorsque on a compris ses vrais desseins. Quand il apprend que les mages ont disparu du radar, il est fou de rage et il s'arrêtera à rien. C'est les petits-enfants de Bethléem et ses environs qui paieront le prix de sa méchanceté. En Inde, aujourd'hui, plusieurs savent qu'il y a cette ONG qui s'appelle Compassion. Le but, c'est qu'on peut parrainer des enfants défavorisés et leur donner une éducation et la possibilité d'un avenir. En Inde aujourd'hui, le gouvernement est en train de fermer tous les centres de Compassion. Compassion est en Inde depuis 1968, donc bientôt 50 ans. Nous avons un enfant parrainé là-bas, donc nous sommes au courant. Et voilà, Compassion et ses partenaires locaux se sont conformés à un nouveau cadre légal qu'ils ont imposé en 2011, quand la situation est devenue compliquée. Une centaine de centres de parrainage visés par les autorités indiennes ont même été fermés ces derniers mois. Mais cela ne suffit pas. Malgré toutes les tentatives, Compassion ne sait toujours pas ce qui lui est reproché. Aucun échange n'a été possible avec le gouvernement indien. Sans évaluation rapide et positive, Compassion Inde sera dans l'obligation de cesser ses activités. Ceux qui ne peuvent pas se défendre, qui ne ripostent pas, là aussi, c'est typique de la persécution qu'on voit déjà dans notre passage. Mais on voit aussi la marque de l'Église persécutée, qui renonce à la vengeance et aux représailles, qui choisit encore et toujours de pardonner. D'une manière que nous ne comprenons pas, semble-t-il que le mal doit suivre son cours encore un temps. Ça aussi, les prophètes l'ont annoncé. On a vu dans les versets 17 et 18, Rachel qui pleure ses enfants. C'est aussi le vécu des chrétiens à travers les siècles. Alors, où se trouve la consolation ici? Jésus, malgré toute l'opposition qui se concentre sur sa personne, rappelez-vous, ils ont dit, voici l'héritier, tuons-le et nous nous accaparons de l'héritage. Mais il s'est placé librement dans cette situation de dépendance totale. Il était d'accord de devenir ce bébé. Et quoi de plus fragile que cela? Jésus a accepté que les commandes restent entièrement entre les mains de son Père céleste. Il va dire, une fois adulte, « Je ne fais rien de moi-même. » Et Jésus a appris et nous apprend qu'à travers ce qu'il a souffert, une confiance et une obéissance totale en Dieu. Et en fait, c'est justement d'un tel sauveur que ceux qui souffrent ont besoin. Son message est que le Père céleste est entièrement digne de confiance, quoi que soit notre situation. Et même, peut-être surtout, quand l'adversaire brouille les pistes, au point qu'il semble-t-il, c'est Dieu qui devait être placé sur le banc des accusés. Le message aussi, c'est que cette même humilité qu'il a démontrée est appelée à être la marque de sa famille adoptée. Et l'Église persécutée nous rappelle cela aussi. Et par son exemple, nous découvrons que Dieu nous aime sans compter. Il nous aime sans compter, il a donné son Fils, sachant ce qui allait lui arriver, pour qu'à notre retour, nous nous engageons librement, même au prix fort, danger de nos vies. Alors, pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons prendre avec aujourd'hui, ceux, nous qui vivons dans une grande liberté? Nous pouvons apprendre la solidarité. Nous sommes dans un monde où les dirigeants, à l'instar d'Hérode, sont de plus en plus méfiants concernant ceux qui suivent quelqu'un qui prétend être d'un autre royaume. Nous sommes appelés à être solidaires avec ceux et celles qui sont vraiment dans la difficulté à cause de cela, qui ont besoin d'être consolés. Solidarité, comment ça? Alors, on peut s'informer. Ce livre, le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, que des témoignages de situations de persécution. Un chant dans la nuit, les femmes qui souffrent parce que leurs familles sont séparées, marient souvent en prison. Consultez notre bibliothèque, il y a des œuvres où on peut s'informer. On peut prier en connaissance de cause. Pour certains, peut-être, ils peuvent visiter, comme les mages. Persévérance, solidarité, persévérance. Les mages, aussi, là aussi, donnent l'exemple. La froideur des religieux qui sont restés indifférents devant la venue de Jésus. Ça nous guette, nous aussi, on doit veiller à persévérer, à rester dans la connaissance de l'amour du Père qui a tout donné pour nous en envoyant son Fils. Solidarité, persévérance Et pour terminer, confiance. Confiance en suivant l'exemple de Jésus. Dans nos épreuves et dans nos situations difficiles aussi, nous pouvons faire la même confiance au Père Céleste. L'Église persécutée nous parle aussi de cette confiance. Ils nous disent « Courage, tenons ferme jusqu'au bout. L'issue n'est pas en doute. Jésus accomplira la mission qui lui a été confiée. Son Église également. » Prions. Seigneur, ta venue nous démontre une réalité de notre planète, de notre vie, qu'il y a une opposition. Il y a un ennemi qui s'est dressé contre Dieu et qui cherche de toutes les manières à détruire, diviser, cacher, nuire. Nous te bénissons pour ta venue qui montre une autre voie, une autre réalité, l'amour du Dieu qui envoie le libérateur et invite chacun à se lever, à le suivre. Que ce Noël puisse nous le rappeler, Seigneur. Nous te bénissons pour ton peuple qui persévère au prix de leur vie souvent, et qui montre qu'un engagement avec toi, c'est ce qui est de plus important dans cette vie et au-delà. Amen.
Quand on pense à ce que nous a dit Roger, à ce qu'on pense à tout ce que nous pouvons maintenant savoir grâce à l'Internet, la télé, la radio, nous sommes informés. Il n'y a personne qui pourrait dire « je ne savais pas ». Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait qu'il y en a tellement. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais parfois je me sens complètement accablé par ces faits, submergés. Que faire? Roger nous a laissé quatre mots clés que j'aimerais souligner. C'était solidarité, persévérance, confiance et finalement prière. Et c'est ce qu'on va mettre tout de suite en pratique. Je vous invite à la prière, tout spécialement centrée sur nos frères et sœurs persécutés.
Seigneur, en faire tous ces chrétiens, toutes ces chrétiennes, Seigneur, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur liberté. Et Seigneur, que tu sois, c'est notre demande, que tu sois particulièrement avec nous.
Amen.
Amen.
Aide-nous à la vivre en profondeur, à la vivre pleinement, avec ceux qui nous entourent, mais en pensée avec tous ceux qui souffrent, Seigneur. Rends-nous fidèles, toi qui es fidèle, Seigneur, devant tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que souvent dans mon cœur, je dis, mais jusqu'à quand, Seigneur, tu vas supporter. Tu vas accepter tout ce qui se passe dans ce monde auprès de ceux que tu aimes et qui ont le courage de ne pas renier leur foi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Seigneur? Aller jusqu'au bout, avoir le courage de ne pas renier notre foi. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous te demandons de nous enraciner toujours plus dans ta parole, de nous garder debout, de nous aider à être des sentinelles.
Amen.
Thank you.
Au Dieu notre Père, Père de tous ceux qui, par le monde, ne peuvent pas fêter Noël comme nous, qui doivent se cacher, qui ont peur, ou qui ont la crainte. Seigneur Jésus, rends-les fermes et inébranlables dans la foi, la confiance, l'assurance, l'espérance qu'ils ont en toi. Donne-leur comme à nous, chacun dans nos situations, cette persévérance qui nous permet de tenir bon. Afin que tu puisses dire à chacun, entre bon et fidèle serviteur. En ton nom, Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen, Seigneur.
Le Seigneur, j'ai reçu trop mettre le culte de Genève. Mais c'est vrai, Seigneur, que hier, au culte de l'escalade, le pasteur rappelait que la victoire était grâce à ton nom. Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te demander la bénédiction toute spéciale sur tous ceux qui s'engagent sur le terrain et qui soutiennent nos frères et sœurs, non seulement spirituellement, mais aussi particulièrement matériellement. Je pense à toutes ces organisations comme Portes Ouvertes ou la mission de Wurm Brandt et tant d'autres qui s'engagent pleinement. Seigneur, bénis-les, soutiens-les et nous te prions qu'ils aient beaucoup de gestes de solidarité de notre part. Nous te le remettons au nom de Jésus. Amen. et nous allons avoir à célébrer la Sainte Cène. Pour l'introduire, j'aimerais inviter les musiciens. Nous allons chanter un très beau chant, très approprié, qui s'appelle « C'est Jésus seul ». Cent soixante mille, la moitié d'habitants de cette ville, de cette magnifique ville de Genève. 160 000. C'est le chiffre qui fait peur quand on pense que c'est 160 000 chrétiens qui sont morts cette année pour le nom de Jésus-Christ. 160 000. Et puis à tous ceux, nous l'avons déjà entendu, tous ceux qui doivent se cacher, qui doivent célébrer Jésus comme nous ce matin, mais en cachette, secrètement, qui vont prendre comme nous le pain et le vin pour célébrer ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Tom White, un jeune missionnaire zélé, est allé à Cuba, dont on entend parler ce dernier temps. Il y est allé par un moyen un peu particulier, comme Roger Heiniger, en avion, en petit avion. Il a parachuté des Bibles pour que les Cubains puissent connaître l'Évangile. Et puis un jour, quand il est revenu faire la même chose, il a été surpris par le mauvais temps. Il a dû atterrir en urgence à Cuba. Vous imaginez? Il a été pris, bien entendu. Il a été mis en prison pendant 20 ans. Sa femme a pu lui rendre visite deux fois. Et il lui a demandé la première fois, « Peux-tu m'apporter en cachette de la poudre du jus de raisin ?» Et c'est ce qu'elle a fait. En le diluant, il a pu reconstituer le jus de raisin et pouvoir communier de cette façon-là. Alors nous aimerions prendre notre jus de raisin ce matin, ou le vin, chacun selon sait, en pensant à Tom White. Je vous rassure, il a été libéré par l'intervention de son gouvernement à peu près au bout de 2 ans ou un peu moins. Mais il y a tous ceux qui y sont toujours. Pensons-y.
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous allons distribuer la Sainte Cène. Le vin réparti en trois ou sous trois espèces, si j'ose dire, il y a la coupe du vin et les petites coupelles contiennent tout autour du vin ou alors du jus de raisin au milieu. Nous voulons remettre ce moment de Sainte Cène entre tes mains, Seigneur, en pensant à tous nos frères et sœurs qui communient en secret souvent pendant ce temps-là, à tous ceux qui sont persécutés, tués, comme toi tu as été persécuté et tué. Dès le premier jour, jusqu'à ta mort sur la croix, où tu as été crucifié pour nos péchés, pour expier nos fautes, pour que nous soyons guéris, comme le disait le prophète, par tes meurtrissures. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour la liberté que nous avons de célébrer cette sainte scène dans la joie et en public. Bénis ce pain, bénis ce vin.
Si nous nous souvenons de ta mort, Seigneur, nous célébrons ta vie. Tu es vivant, tu es le ressuscité, tu es avec nous comme tu es avec celles et ceux qui souffrent. Et nous te louons pour ta présence et ta promesse, tu ne nous abandonneras jamais. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces signes de ton amour. Amen.
Un des signes de solidarité, vous le voyez là, c'est les trois pochettes qu'on va passer. Nous allons donc passer à l'offrande et nous allons être accompagnés par nos musiciens, par un chant qui veut tout dire, tout pour toi. Seigneur, merci pour ce signe de solidarité de la part de chacun. Nous te le remettons comme la chanson le dit, Seigneur, tout appartient. Qu'avons-nous d'ailleurs que nous n'avons pas reçu, Seigneur? Alors nous te remettons une partie de nos biens, qu'ils soient bien gérés. Nous te prions pour tous ceux qui vont en disposer, qu'ils soient conduits par toi pour avancer le royaume de l'Éternel. Amen. Et avant les annonces, j'aimerais demander à Francine de vous faire un compte-rendu.
J'ai déjà renvoyé deux fois. Là, je crois qu'il faut que je le fasse. C'est un mini-rapport des rencontres générales. Alors, nous avons eu un accueil de Relais Monod qui nous relate un historique de la Frée. On fêtait les 10 ans de la Frée. Il a terminé par cette phrase, que les seuils de nos églises soient le plus bas possible afin de pouvoir et savoir accueillir les éclopés de la vie. Que nos valeurs, que les valeurs qui nous animent soient identiques à celles de Jésus. Ensuite, nous avons voté le guide de l'employeur qui était accepté par l'Assemblée. Nous avons nommé à l'unanimité Daniel Berger au bureau exécutif, responsable du service des activités en Suisse, à savoir commission enfance, jeunesse, communication, implantation d'églises et migrants. La reconnaissance d'intérêt public, la modification des statuts de la FRAE pour l'affiliation des églises FRAE à la FEV, Fédération des églises vaudoises, a été acceptée. Cette reconnaissance d'intérêt public permet d'augmenter l'unité des églises, d'éviter d'être considérées comme sectes et permettra d'avoir un droit de parole dans les services d'aumônerie. Aucun contrôle au niveau théologique et cultuel n'est à l'ordre du jour. Un temps d'observation de 5 ans est prévu et si une direction trop contraire à nos convictions est constatée, l'exercice peut être interrompu. Un appel à renouveler les délégués de l'Église pour qu'ils soient un petit peu plus jeunes. Écho des activités de la Frée One, grand succès pour cette première édition. Je cite, nous avons été submergés de bénédictions. Présence d'environ 2000 personnes, la tranche d'âge spécialement visée, 15-25 ans, a été fortement représentée, mais également manifestation multigénérationnelle. Le prochain One aura lieu, notez bien, 18 novembre 2017 au Forum Fribourg. L'opération Huile d'Olive a rapporté moins que prévu. Ce fonds est destiné à être une subvention pour les pasteurs et est alimenté par la FLP, par les pasteurs stagiaires, pardon. L'évaluation de Philippe Tuller, secrétaire général, s'est révélée positive. Il a, semble-t-il, une aptitude à transformer les difficultés en opportunités. Écho des activités du SME, de nouveaux outils de communication sont présentés, dont un nouveau site internet, une plaquette de présentation ainsi que des fiches de suivi de projet. Nous avons eu le privilège d'avoir des nouvelles directes de la famille Golet, qui est en mission au Bénin. Ils ont 4 enfants, lui est mécanicien et il soutient la formation d'apprentis mécaniciens là-bas sur place. 2 actions de Noël, l'espérance qui tient un fil, soutien à l'école Zingishor au Sénégal, ainsi que formation sans frontières au Laos. Un don est demandé pour soutenir la formation de nouveaux responsables. Présentation de nouveaux livres, dossiers vivres ainsi que tous migrants. Finances, présentation et adoption du budget. Le déficit a été réduit à 35 000 francs. Nouvelles des églises, Aigle, 2 stagiaires pasteurs ont été engagés. Hutin-Yverdon, Gloria Bawago a été engagée à 50%. Bienne, 1 stagiaire Camille Kousner a été engagée. Oasis, arrêt de la collaboration avec Jean-Paul Turcher. Châteaudet, Philippe et Claire-Lise Rossel ont pris leur retraite, mais restent à Châteaudet. Israël Combatté du Togo, aumônier sur Merseyship, ayant fait Emmaüs et obtenu un master à Bruxelles, a été engagé à l'unanimité. Cossonay, un couple faisant partie de l'église de Cossonay, présente Toda, une maison de prière, qui est un mouvement mondial, qui est un lieu d'adoration continuelle. À La Rochette, nouveau poste à 50% apparaître pour un poste de pasteur aumônière. Et à Lavigny, Mathias Lampert, engagé à 100%. Voilà, je vous remercie.
Les annonces du jour, courtes et éclairées. Voilà. Alors, les annonces, c'est le papillon, vous l'avez vu sur vos sièges. Il y en avait 2 par siège. Il y en a 1 pour vous, 1 pour votre voisin de palier préféré. Et puis, 2e annonce en relation toujours avec le Noël de Mérin. À la sortie, il y a toujours le panneau d'inscription pour la collation. Il faut encore un peu de pâtisserie sucrée ou salée et surtout de l'aide pratique. Il n'y a qu'une personne, par exemple, pour débarrasser. Alors, si on finit, vous voyez, puis qu'il y a une personne pour débarrasser, cette personne va finir très, très tard. Donc, volontiers de l'aide. Voilà. Et puis, l'action de Noël de la Fré, il y a sur les tables, là à l'extérieur, l'action de Noël de notre fédération dont Francine vient de parler. Il y a deux objets. Les deux sont autour de la formation. Il y a la formation d'étudiants en théologie, que vous pouvez soutenir des étudiants en théologie au Laos, et d'un autre côté, une autre possibilité de soutien pour de la formation des frais d'écolage, par exemple, les frais de scolarisation d'enfants démunis au Sénégal. Voilà, deux actions de Noël de notre fédération. Et puis, une action de Noël de notre église. Il n'y a pas de dia pour ça, parce que c'est au dernier moment, c'était hier soir. Hier après-midi, la distribution de
biscuits de Noël. Alors hier, avant-hier avec le groupe de jeunes, on a confectionné des biscuits. Merci à ceux qu'on a confectionné pour nous et qui nous les ont apportés pour compléter nos biscuits. Samedi, on les a emballés et samedi après-midi, le groupe de jeunes les a distribués dans la rue pour ces petits paquets. Et on a aussi posé une table à côté de l'arrêt Forum Mérin. Et on a distribué du thé chaud, du café et des biscuits à l'aide de certains d'entre vous. Donc, merci pour votre présence. Et ça s'est très bien passé. On a tout distribué. Les gens, comme d'habitude, ont été un peu étonnés de recevoir juste pour Noël. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. Et merci à tous.
Ouais, mais merci au groupe. Merci au groupe cet été pour cette initiative qui reconduit chaque année, qui est une manière d'entrer en relation avec la population de la commune. Tout simplement, Noël commençait, c'est un don.
Voilà, nous. Alors, Sylvain nous rappelle que le 24 décembre, il y a la veillée œcuménique au centre de CEPOM à 23h. Donc, on le rappellera encore dimanche prochain. Donc, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. On était en début de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu termine avec cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, allons dans la paix du Seigneur. Bon dimanche.